D'accord? Donc, cette situation, on doit comprendre aussi que nous avons à respecter l'onction beaucoup plus et de comprendre que David avait l'occasion de se débarrasser enfin de cet ennemi qui le poursuivait. Et même on peut dire que là, quelque chose lui était proposé en disant, t'as même pas besoin de te salir les mains. C'est moi qui vais le faire pour toi. Abishaï lui fait cette proposition. Et lui dit, moi je vais le clouer en terre un seul coup et on n'aura plus à y revenir. Et je vous assure qu'il n'aurait pas raté son coup. C'était un homme de guerre, un des vaillants hommes de David, et c'était vraiment un guerrier. Donc, David dit non, on ne peut pas faire ça. Quand il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, quand il a trompé l'Éternel par son péché dans l'histoire de Bathsheba, au psaume 51, on le voit qui dit « Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Il avait vu comment Saül avait sombré dans la folie parce que le Saint-Esprit s'était retiré et il nous a dit qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel, Dieu n'a pas de démon qui l'envoie, mais un mauvais esprit, ça veut dire que Dieu a permis à ce moment-là un mauvais esprit de se manifester et Saül n'a fait que chuter de plus en plus bas, on peut dire. D'abord, il avait des accès de folie et après il était littéralement possédé. À la fin, il est allé voir une voyante, alors que c'est lui-même dans son zèle pour Dieu qui les avait tous détruits. Mais il est allé lui-même et ça l'a précipité dans son malheur et puis il a été tué dans la bataille qui a suivi. Donc, un roi déchu, pourtant David dit, verset 10, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende dans un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Et là encore, je dis, les serviteurs de Dieu ne sont pas infaillibles, ça n'existe pas. Nous devons pouvoir nous reprendre les uns les autres. Mais en même temps, il faut comprendre que la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains 14, 4, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Nous avons à veiller les uns sur les autres, mais on n'a pas besoin de se mettre à la place de Dieu et de vouloir régler toutes ces affaires du royaume. D'accord? On fait notre part. Et donc, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ou de servantes ou de chrétiens qui font ce qu'il faudrait pas ou qui ne font pas ce qu'il faudrait, etc. Mais quelqu'un a dit une fois, je crois que c'était le pasteur John Austin, il a dit une fois, nous avons fini par comprendre que nous n'étions pas le policier du corps de Christ. Donc, il y a des choses où Dieu nous dit peut-être, si tu vois ton frère pécher, va, reprends-le. Mais nous n'avons pas, heureusement, cette charge d'être le policier du corps de Christ dans son ensemble sur toute la terre, ni même peut-être dans l'église d'à côté, heureusement. Et donc, il nous est dit ici, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas automatique. Mais ça veut dire que si vous pratiquez la parole de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Il nous a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous allez dire, Seigneur, je vois cette situation, mais c'est pas mon souci. C'est pas mon problème. C'est toi qui as le pouvoir d'affermir. Et donc, vous priez, vous en débarrassez, c'est plus votre problème, et par la prière, vous le faites remonter à Dieu, et il nous a dit, après, il se tiendra debout parce que le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Vous voyez? Verset 12. David prit donc la lance et la cruche qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien. Personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Voyez, Dieu était dans cette affaire. Ce n'est pas une lubie de David. C'était quelque chose qui était conduit par Dieu en vue de la délivrance. Et dès que vous osez faire quelque chose d'audacieux, comme David l'a fait. Aller au milieu du camp de l'ennemi, il faut le faire quand même ça. Mais on dit des fois la meilleure défense c'est l'attaque, ou on dit il vaut mieux porter la guerre chez l'autre plutôt que de la voir venir chez soi. Donc l'Éternel était déjà dans cette affaire, il avait agi. David aurait eu l'occasion de tuer Saül, il ne l'a pas fait. Et donc il a pris la lance et la cruche d'eau. Peut-être vous ça vous dit pas grand chose, une lance et une cruche d'eau, mais imaginez qu'ils étaient dans le désert et ils étaient à la guerre. La lance et la cruche d'eau représentent les deux choses vitales de Saül. C'était ce qui était le plus important. Il lui a pas pris sa bourse chargée d'or, il n'en aurait rien fait et ça n'aurait pas fait de différence. Mais il lui a pris les deux choses dont il avait besoin. Il avait besoin d'une arme et il avait besoin d'eau. C'était dans le désert, rappelez-vous. Et là, on peut faire une petite parenthèse par rapport à nous-mêmes. Maintenant, plaçons-nous à la place de Saül. Nous sommes aussi, des fois, cette fois-ci, non pas, on se met un peu hors contexte. Mais nous sommes là, dans une situation, et nous avons aussi besoin d'une arme spirituelle, et nous avons besoin aussi de l'eau. L'eau, c'est la vie. Nous avons besoin de l'eau de la parole tous les jours. Donc, l'avertissement qu'on peut en tirer, c'est ne soyons pas dans cet assoupissement qui, cette fois-ci, ne vient pas de Dieu, au point que l'ennemi puisse venir dans notre camp, nous voler notre arme, nous voler notre eau, et qu'on n'ait rien remarqué. Le matin, on se réveille, il n'y a plus rien. Mais je crois que c'est un avertissement, c'est l'Esprit de Dieu qui parle aussi à l'Église. Il nous a dit que c'est le moment de se réveiller. Réveillez-vous du sommeil dans lequel vous êtes, et rendez-vous compte qu'il y a des gens, l'ennemi peut pénétrer chez eux, il peut leur voler ce qu'il y a de plus précieux, de plus important. Il ne remarque même pas qu'il était là et tout a disparu. Après, on se réveille et il y aura une grande désillusion. Donc, prenons ça aussi comme avertissement. Et je crois que l'Esprit fait tout ce qu'il peut actuellement parce que l'Esprit connaît les temps dans lesquels nous vivons et il connaît les temps de Dieu. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour nous réveiller. Moi, je dis, l'Église, notre Église et l'Église de France en général, ne vit pas le réveil. Nous vivons des moments de réveil. C'est ça le problème. Chacun d'entre vous, vous avez déjà vécu des moments de réveil. Mais c'est comme dans le naturel. Il y a des moments où vous êtes assoupi et des moments où vous êtes réveillé. Mais spirituellement, on peut être stimulé. On peut tout à coup avoir de l'enthousiasme pour Dieu suite à un temps que vous avez passé dans la présence de Dieu, par rapport à une prédication entendue, quelque chose que vous avez lu. Tout à coup, ça fait quelque chose en vous. Vous êtes dans ce feu de Dieu, mais vous y êtes momentanément. Vous expérimentez un temps de réveil, un moment de réveil, et ensuite vous retournez dans votre routine de tous les jours, votre travail, vos affaires, votre train-train. Et puis, on se rendort spirituellement jusqu'au moment où nous allons nous expérimenter le prochain réveil. D'accord? Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est le réveil, dirais 24 heures sur 24, parce qu'on a dans le psaume 16, par exemple, on l'a lu plusieurs fois dernièrement, il nous est dit, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Des choses comme ça, où notre esprit reste en éveil constamment. C'est à ça qu'il faut aspirer. Un moment de réveil, c'est déjà bien. Mais trop souvent, on a connu des moments de réveil, peut-être pendant une réunion, peut-être à la fin d'une réunion, un temps où vraiment on a vu un mouvement de l'Esprit de Dieu. Mais après, on oublie de nouveau. On oublie surtout... On oublie où nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et on oublie qui nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand je vais quelque part, c'est pas n'importe qui. Pas pour me faire penser que je suis quelque chose que je ne suis pas. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant de Dieu qui se promène, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, rappelons-nous qui nous sommes. Où nous sommes spirituellement. Rappelons-nous dans quel temps nous vivons. On peut dire Dieu a mis tout à notre disposition maintenant. Tout est exposé. On a une révélation comme on n'a jamais eu jusqu'à présent. Le proverbe 19:15 dit « La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. » Nonchalante. Je trouve ce mot intéressant. Nonchalante. Et la faim ne vient pas instantanément. D'accord ? C'est un phénomène aussi pour votre corps. Quand vous avez fait un bon repas, ben vous n'avez pas faim. Vous êtes rassasié. Mais au bout d'un moment, si vous ne nourrissez pas, la faim, elle vient. Et si, par exemple, la maman ou l'épouse qui fait le repas, vous pouvez pas dire « Ah ben maintenant j'ai faim, passons tout de suite à table. » Il faut un temps de préparation. Il faut préparer le repas et après seulement on pourra le prendre. D'accord ? Et spirituellement c'est un petit peu pareil. Il faut préparer les choses pour que le moment où l'esprit a besoin, par exemple de la parole, cette parole soit là, soit en nous, et qu'il puisse s'en servir. Donc voilà ce que David a fait. Il a pris la lance et la cruche d'eau. Au verset 13, David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner. Donc je vous ai dit, Abner, c'est le chef de l'armée. « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» C'est intéressant, ça. David s'adresse à Abner. Vous avez déjà posé la question, pourquoi ? Pourquoi il n'interpelle pas Saül directement ? On me dit, parce qu'il est responsable de la sécurité. Moi, je crois plutôt que c'est une manière détournée de vouloir s'adresser au roi. Et nous avons déjà parlé du respect pour l'onction. Nous avons posé la question si on peut aussi voir est-ce que nous sommes endormis spirituellement. Mais ici, il y a quelque chose de très important, c'est que ces gens avaient un code de l'éthique, du respect et de l'honneur qui nous est, pour ainsi dire, complètement inconnu dans notre société ici, occidentale, 20e siècle. Où tout le monde peut dire n'importe quoi et j'ai la liberté d'expression sacro-sainte. Mais là, il y avait un code, on peut dire. Tout le monde n'interprétait pas le roi comme ça en disant « Hé, toi, Saül, j'ai un petit mot à te dire. » C'est pas comme ça que ça se passait. Regardez avec moi dans Job 29, par exemple. Job, il nous a pas dit que c'était un roi, ni un chef, ni de l'armée, ni quoi que ce soit. Mais dans Job 29, on se rend compte quel était ce personnage, Job. C'est quelqu'un de très important. Voilà ce que je lis dans Job 29. Il nous est dit du temps où le Tout-Puissant était avec lui. C'est ça qui rend un homme important. C'est pour ça que vous pouvez vous considérer homme ou femme du peuple de Dieu comme quelqu'un d'important dans ce monde. Vous êtes des fils et des filles de rois. D'accord ? Et au verset 5, voilà ce qu'il dit. « Quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème, et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile, si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, voilà ce qui se passait. Il va à la porte de la ville qui est le siège, l'endroit de l'autorité. D'accord ? C'est là qu'on exerçait la justice. Là, la porte de la ville. Donc, quand lui arrivait, Job, vite on se dépêchait pour lui préparer un siège. Pas mal déjà. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. les vieillards se levaient et se tenaient debout. Alors que nous avons l'habitude de, que la Bible dit « honore les vieillards ». Mais là, on voit que Job, c'est quelqu'un de plus important. Quand lui vient, on lui prépare une chaise et c'est les autres qui se lèvent, même quand c'est des vieillards. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Je m'arrête là. Je voulais simplement souligner ça. Cet aspect de quand Job arrivait, les autres se taisaient. Et maintenant, on était attentif parce que c'est lui qui avait l'autorité. D'accord? Et ici, nous voyons le même phénomène. C'est-à-dire que David avait encore ce respect pour l'autorité de loin de l'Éternel. Et même qu'il savait que c'était un roi déchu de la grâce, on peut dire, il respectait encore cet aspect. Extraordinaire, hein? On peut dire même extrême pour nous. Je trouve que c'est exagéré, hein. Mais c'est parce que, avec Dieu, on peut dire rien n'est exagéré. On peut pas en faire de trop dans ce sens. Parce que il est dit dans 1 Samuel, au moment du choix de David, il est dit, cette révélation, j'honorerai celui qui m'honorera. D'accord? J'honorerai celui qui m'honorera. Et donc, David s'adresse en fait à Abner et c'est une façon détournée de vouloir chercher une réponse de la part de Saül. Donc David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme? Qui est ton pareil en Israël? Pourquoi n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. » À ce moment-là, au verset 17, il nous dit, Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon seigneur. Vous voyez, à ce moment-là, quand Saül s'adresse à lui, alors il lui répond directement. Autrement, il ne l'aurait pas interpellé directement. C'est intéressant, hein? C'est parce que nous devons comprendre encore et encore et encore l'extrême puissance des paroles. Qui a l'autorité d'employer des paroles? Qui peut dire quel mot? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le diable, ce qu'il a fait, il nous est dit dans la parole de Dieu, « Je dis, je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu. » Il a pensé pouvoir pervertir la puissance des paroles, l'utiliser à son profit pour renverser Dieu lui-même. C'est à cause de ça qu'il a été précipité. Mauvais usage de la parole. L'orgueil, c'est justement de croire que nous avons l'autorité d'employer mal les paroles. D'accord? Et si c'est cet orgueil au niveau de l'emploi des paroles qui nous met dans le malheur ou dans le bonheur? Qui nous met sur le sentier de la vie ou de la mort. On peut dire ici, c'est le privilège des rois d'utiliser les paroles d'autorité. Saül avait ce privilège. David l'a respecté et il ne lui a répondu que lorsqu'il a été directement interpellé. Et il dit, pourquoi, verset 18, mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? De quoi suis-je coupable? Que le roi mon seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Vous voyez, c'était encore cette même tentation. Déjà à l'époque, quand il y avait des tribus d'Israël qui voulaient habiter de l'autre côté du Jourdain, elles ont ériger un monument spécial en disant « Nous aussi, on a notre part avec le peuple de Dieu. » Et on veut que ce soit un monument qui serve de témoignage pour ça. « Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel. » Ça, c'est cette perspective que Dieu a son regard sur Israël. Nous savons que Dieu a le regard sur le monde entier. Mais on voit qu'il observe, d'une certaine façon, Israël à cause de la relation qu'il a avec ce peuple. Mais pour nous, on est peuple de la Nouvelle Alliance, donc on a une conception, disons, plus élargie, globale, de Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde, on a maintenant une vision globale. Mais sur le moment, c'était surtout cette vision que Dieu est particulièrement, se manifeste particulièrement en Israël. Le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce. Comment chasserait une perdrix dans les montagnes ? Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisque en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, j'ai fait une grande faute. Ah, c'est formidable. Il se repent, il change. David devait être content d'entendre ça. Mais il est content, mais il n'est pas naïf. Il est prudent. Au verset 22, il dit, voici la lance du roi. Il était encore très loin sur la montagne. Que l'un de tes gens vienne la prendre. Il n'a pas dit, tiens, je t'apporte ma lance et la cruche. Parce qu'il savait que Saül pouvait changer d'un instant à l'autre. Et c'est ça le drame aussi des gens qui sont sous l'influence du diable. D'un instant à l'autre, c'est plus la même personne. Et le problème de fond n'est pas réglé. D'un instant à l'autre, la gentille personne, vous la reconnaissez plus. Donc là, il avait un accès de bon sens, on veut dire. Mais qu'est-ce qui empêche que l'instant d'après, il aurait nouveau un accès de jalousie ou de folie? Donc, vous voyez, David a été prudent. Et il a fait cette déclaration qui est importante pour nous. L'Éternel, verset 23, rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Parce qu'on n'est pas encore sûr si c'était sincère de la part de Saül ou si c'était un piège pour l'attirer. L'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute angoisse. Et ça, c'est le message aussi pour nous. Notre vie, dites-le, ma vie, est d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Et il me délivrera de toute angoisse. Parce que Dieu sait ce qui se passe dans notre vie. Et si un homme a pu estimer la vie d'un autre d'une façon tellement élevée et précieuse, même si tout le monde avait dit, mais ça c'est pas un roi, ça, c'est méprisable. Tout ce qu'il a fait, il a même par folie voulu tuer son propre fils à un moment. Il s'est retourné contre Jonathan parce qu'il avait osé s'élever contre le roi pour dire, mais non, ne tue pas David. Et donc, malgré cela, c'est quelqu'un de méprisable, mais David a su voir que c'était quelque chose qui était précieux, malgré tout. Pour nous aussi, c'est important de voir que comment aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Il y a des gens qui ne sont pas aimables, des gens qui ont un mauvais caractère. Mais il y a beaucoup de choses. Mais Dieu nous aide à voir la vie de chacun comme précieuse, parce qu'elle est précieuse à ses yeux. Donc si nous sommes loin de Dieu, si on est temple du Saint-Esprit, on arrive à commencer à voir les gens comme Dieu les voit, précieux. Et à cause de ça, il y a une récompense pour nous. Plus vous élevez, en fait, il nous est dit, Jésus a dit la chose suivante, il a dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Plus vous allez estimer les autres, plus cette même mesure vous sera à vous aussi attribuée. C'est comme ça qu'on va vous évaluer. Vous avez un grand prix aux yeux de l'Éternel, ça c'est sûr. Mais si vous voulez vraiment être au bénéfice de toutes ces bontés, alors à ce moment-là, vous devez aussi élever votre standard par rapport aux choses que vous avez autour de vous. C'est ça qui va amener un flot de bénédictions. Saül dit à David, verset 25, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Et ce n'est pas à cause de la bénédiction de Saül que David a été béni. C'est à cause du standard qu'il avait dans sa vie. D'accord ? On veut élever le standard, je crois que c'est important. Élevons notre standard, le standard des choses de Dieu, qu'on voit de nouveau que les choses qui sont précieuses. que ici, c'est écrit chez moi la Sainte Bible. D'accord ? C'est pas écrit juste la Bible. C'est la Sainte Bible. C'est la parole de Dieu. On le dit un petit peu avec légèreté parce que on a des Bibles partout dans nos maisons. Un chrétien peut en avoir 5, 6, 10, de toutes sortes de traductions encore. Mais ça ne devient jamais un livre banal. Estimons la valeur de la parole de Dieu. Estimons la valeur de notre alliance avec Dieu. La valeur du fait que par le sang de Jésus, on a une entrée dans le sanctuaire. Et ça, comment on va l'estimer? Ben, les choses qui sont précieuses pour nous, on leur accorde le maximum de notre temps. C'est la façon dont vous pouvez mesurer. Si vous n'avez jamais le temps pour Dieu, vous faites vous-même le bilan de votre vie spirituelle. Donnons-nous tout entier à lui. Que le Seigneur nous aide à grandir dans cette connaissance des choses saintes, l'onction, de la dignité, l'honneur, du respect. Et donnons à chacun ce qui lui revient. Et ça revient d'abord à Dieu. D'accord ? Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.